Nos démocraties sont en berne.
Mais le paradoxe est que cette nouvelle économie, où personne ne maîtrise rien, où les pays sont à la merci des envies spéculatives, où des fortunes considérables s'accumulent sans réalité matérielle, où le créateur de Meta, Mark Zuckerberg, peut perdre quelques milliards en une journée, c'est cette économie-là qui domine le monde. Domine, mais ne contrôle pas. Le système libéral impose en effet désormais sa loi au monde entier, n'ayant plus le communisme pour tempérer ses ardeurs. Et tous les politiques de la planète se plient aux exigences de ce nouveau maître un peu fou qui entend régler tous les aspects de nos vies alors qu'il ne maîtrise plus aucun des paramètres. Les démocraties en prennent un coup. Les peuples n'ont plus qu'une influence marginale sur la marche de leur pays. Ils peuvent imposer des mesurettes, mais l'essentiel relève de la nouvelle économie. Les gouvernements peuvent bien se succéder, de droite, de gauche, du centre, d'un extrême ou d'un autre, ils font la même politique. Les urnes sont démonétisées et les électeurs restent chez eux. Ne vont aux urnes que les anciens, ceux qui ont connu l'époque où le bulletin de vote avait un pouvoir, avant la chute du mur de Berlin en 1989, et ceux qui profitent du dérèglement du monde. Mais dans l'ensemble, les peuples ont perdu le contrôle sur leur vie. Pour la raison que l'on vient de voir, mais aussi pour une autre, que l'auteur de L'obsolescence de l'homme, Günther Anders, dont j'ai parlé plus haut, a très bien décrite, l'homme d'aujourd'hui est dépossédé du contact direct avec le monde. Les médias lui assènent en permanence des images qu'il n'a pas voulu, pas créées, qui l'isolent du vrai monde et remplacent la réalité vraie par celle dans laquelle ils veulent l'enfermer. Et c'est encore plus criant aujourd'hui, où Internet et les réseaux sociaux nous asphyxient littéralement sous le poids des images. Günther Anders évoque ainsi ce qu'il appelle l'analphabétisme post-littéraire, c'est-à-dire
le fait qu'aujourd'hui, presque partout, on invite l'homme à regarder bouche bée les images du monde par le truchement de tous les moyens qu'offrent les techniques de reproduction, magazines, films, émissions de télévision, et qu'il semble ainsi participer au monde entier. C'est-à-dire à ce qui constitue à ses yeux le monde entier. Le fait que, plus généreusement on l'y invite, moins on l'informe de l'ordre du monde, et moins on lui permet de prendre les principales décisions concernant celui-ci. Le fait que, comme le dit une légende molucienne, on lui bouche les yeux, c'est-à-dire qu'on lui donne d'autant plus de choses à voir qu'il a moins son mot à dire. Le fait que l'iconomanie à laquelle on l'a éduqué au moyen des images dont on l'inonde systématiquement présente dès maintenant les traits négatifs du voyeurisme, ce qu'on a l'habitude d'associer à ce concept lorsqu'on le prend dans son sens le plus étroit. Le fait que les images, notamment lorsqu'elles submergent le monde, portent constamment en elles le danger de devenir un moyen d'abrutissement, parce qu'en tant qu'image, à la différence des textes, elles ne révèlent jamais les rapports qui constituent le monde mais se contentent de prélever des lambeaux de celui-ci. Ainsi, en montrant le monde, elles le dissimulent.
Les images masquent le monde à l'homme, alors qu'elles font croire qu'elles le lui montrent. Dépossédé de cette connaissance du réel, l'homme perd tout pouvoir pour contrôler sa vie. Il est enfermé dans une prison d'images et n'a plus de prise sur le monde. De plus, cette profusion d'images fait reculer peu à peu la réflexion au profit de l'émotion immédiate et brute, laquelle a tendance à accroître la violence dans le monde, comme je le montrerai dans un prochain article. Tout se décide donc à la place du citoyen, et il subit.